Bienvenue à vous qui venez d'entrer dans la deuxième partie de C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris. Si vous avez manqué la première partie, nous avons parlé actu, des affiches dans la rue et de l'adoption en Corée dans le registre BD. Allez l'écouter. Et pour cette deuxième partie, nous continuons avec les jeux vidéo, la sculpture et les arts de la scène. Allons-y, lançons-nous dans ces découvertes artistiques.
Bande dessinée,
jeux vidéo et multimédia.
Cinéma.
C'est dans l'art.
C'est dans l'art, sur Radio Campus Paris.
Allez, continuons notre heure culturelle avec les jeux vidéo. Hugo, à ton tour de nous parler de la sortie du jeu Switch Xenoblade Chronicles X Definitive Edition.
Il est quand même en train de jouer avec un truc.
Moi je suis juste en train de flex avec mon magnifique porte-clés Xenoblade Chronicles que j'ai vu sur le site officiel de Nintendo.
Grand fan parmi nous.
Ah oui, Xenoblade Chronicles, c'est juste ma série de jeux vidéo préférée. Donc quand j'ai appris que le Xenoblade X allait sortir sur Switch, j'avoue, j'ai hurlé de joie. Car il était jusqu'alors prisonnier et uniquement disponible sur Wii U. Une console qui a eu le mérite d'exister, on va dire. Voilà, la Wii U quoi. Mais si j'aime tellement Xenoblade, c'est parce que la série porte un vrai message et un vrai propos philosophique. J'aime dire que jouer à un Xenoblade, c'est suivre le récit de l'émancipation de l'humanité. Si ça vous intéresse, j'ai déjà fait 3 chroniques dessus lorsque j'étais à Campus FM à Toulouse dans l'émission Radio Quartier Libre Toulouse. Auto-promo. Et donc, qu'est-ce que nous raconte Xenoblade Chronicles X ? L'histoire prend place en 2054. La Terre se retrouve prise dans l'attaque de 2 puissances intergalactiques, et leur technologie étant bien supérieure à la nôtre, l'humanité doit fuir. Et c'est à bord de la Grande Blanche, l'un des seuls vaisseaux à avoir réussi à décoller, que commence notre histoire. Commence, ou presque, car malheureusement, après 2 ans de voyage, l'humanité se fut retrouvée et de nouveau attaquée. Heureusement, l'humanité survécut, sinon il n'y aurait pas d'histoire. Mais cette fois, c'est grâce à une mystérieuse planète, Myra, sur laquelle le vaisseau doit atterrir en urgence. Dès lors, l'humanité doit s'adapter et survivre, explorer cette nouvelle planète, comprendre ses dangers et ses mystères. Mais ne pensez pas que tout cela sera facile, car l'ennemi est toujours en chasse. Il faudra donc trouver des alliés pour garantir notre survie, car cette nouvelle planète est en fait bien plus vivante qu'on ne le pense. Alors, vous l'avez peut-être déjà senti dans ma petite présentation, mais le jeu traite d'un sujet, pour moi, c'est la colonisation. D'un côté, par l'arrivée des humains sur une nouvelle planète, où, contrairement à d'autres œuvres, ici le parti pris est clairement d'imaginer un moyen pour l'humanité de prendre leur place dans ce nouvel environnement, sans le détruire, sans le dominer, mais en le respectant, et en respectant surtout la vie des autochtones. Et d'un autre côté, on a aussi les extraterrestres, qui eux sont vraiment, pour moi, les colonisateurs, parce qu'ils ont pour seul objectif l'éradication de l'humanité, que ce soit physiquement, mais aussi culturellement. Ils veulent effacer toute trace de notre culture. Tout en s'appropriant, bien sûr, les ressources naturelles et les technologies que l'on possède, ou que possède la planète. Vous voyez le lien avec la colonisation, là ?
À peine. Pas du tout dans l'époque.
Surtout que le jeu est accompagné, pour moi, d'un gameplay toujours très bien léché, très bien, très clean, très agréable. Le système de combat garde la formule historique de la série, un personnage qui attaque tout seul et le joueur qui contrôle les déplacements du personnage et ses attaques spéciales. C'est facile à prendre en main, mais demandera de s'intéresser en profondeur pour y jouer le mieux possible et faire un maximum de dégâts. Pour ce qui est de l'exploration, il s'agit d'un monde ouvert, c'est la spécialité de cet épisode, et même si ça peut être un peu compliqué à prendre en main pour l'exploration au début, une fois que vous aurez suffisamment avancé dans l'histoire, vous pourrez débloquer une fonctionnalité bien utile, aussi bien pour combattre que pour explorer. Mais bon, j'avoue, j'ai pas encore atteint ce point de l'histoire. Mais, j'ai une bonne excuse, j'ai joué à autre chose. Vous connaissez Hollow Knight ?
Pas du tout.
C'est un petit jeu indépendant sorti il y a 6 ans, sorti en 2017, et dont la suite a été annoncée très récemment pour sortir cette année, en 2025. D'où ma très bonne excuse, fallait que je prépare la sortie de l'épisode 2. Donc ce jeu, c'est Hollow Knight, et c'est un vrai. Ce jeu est vraiment excellent. Surtout que... Enfin, c'est un jeu difficile, surtout si vous n'avez pas l'habitude d'y jouer, mais Hollow Knight a vraiment toutes les ressources pour vous charmer. Que ce soit par son style graphique doux et poétique, qui vient parfaitement épouser le labyrinthe de l'ancien royaume d'Alownest, où le jeu prend place. Et en plus, cela s'accompagne d'une OST composée spécialement pour le jeu, que j'adore écouter encore aujourd'hui. Donc je pense que Hollow Knight saura vous tenir en haleine pendant de nombreuses heures. Regardez, il m'a même détourné de Xenoblade.
En tout cas, pour parler de Xenoblade, on est dans le cadre d'une aventure de survie dans un décor de fin du monde et des combats à n'en plus finir. Merci Hugo. Allez, passons aux réactions. Donc, dans ce jeu, on est dans ce scénario de fin du monde. La Terre n'existe plus. Il faut refonder une société dans l'espace avec une nouvelle ville, une nouvelle organisation. Il y a les questions de colonisation. Ça fait beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on en pense, Diane ?
Bah, déjà, bonne ambiance. non, mais moi, ça m'intrigue beaucoup parce que ouais, ça m'intrigue beaucoup de devoir tout reconstruire à zéro. C'est toute une organisation et puis c'est un vrai sujet sociétaux aussi, comme tu dis, c'est très, les sujets de colonisation, c'est des sujets qui sont très sociétaux. Donc ouais, ça m'intrigue un peu, je suis un peu encore envie d'en savoir plus quoi. D'aller regarder au moins plus d'infos sur internet, au moins avoir les visuels, etc. Mmh.
Bon Jeanne, on sait que t'es pas du tout dans la team jeux vidéo, mais...
Ça y est, ma réputation est là.
Tu n'es pas la seule Jeanne. Bon, au vu des grimaces que t'as tirées tout le long de la chronique, je me suis dit que... Non, je rigole, je plaisante.
C'est des grimaces de curiosité. Mais il me manque l'image visuelle, enfin pour avoir quelque chose en tête au moment où tu racontes, parce que je vois pas du tout à quoi ça peut ressembler et comment ça peut être amené.
Est-ce que déjà le synopsis te tente ? Est-ce que c'est quelque chose qui te rend curieuse ?
Ouais, ça me fait penser à Wall-E.
Si jamais pour le style graphique, Xenoblade, c'est une série où vraiment les environnements ils sont immenses. Genre, t'as des immenses arbres.
Mais tu le vends bien.
C'est ma série de jeux vidéo préférée.
Isnel, qu'est-ce que tu veux dire ?
Moi, je suis très jeux vidéo et j'avais déjà joué à Xenoblade, mais je crois que c'est sur la Nintendo DS, la première, ou peut-être la 3D, il y a très longtemps, je suis vieille. Mais donc, du coup, je me souvenais plus du tout du synopsis et ça a l'air super intéressant. Donc, carrément, j'aimerais bien pouvoir m'y mettre s'il est disponible sur l'ancienne Switch, parce que maintenant, il y en a une nouvelle qui sort. Fin...
Oui, oui, il est disponible sur l'ancienne Switch, il est déjà sorti.
Ok, trop. Ah, bah oui, trop bien. Non,
tout va bien.
Mais oui, en tout cas, ça a l'air super intéressant. Le sujet de la colonisation, c'est relation d'amour et de détestation, parce que l'histoire de mes pays d'origine. Donc bon, j'ai beaucoup lu là-dessus.
Et donc, intriguant à voir comment c'est modélisé dans un jeu vidéo. En tout cas,
exactement.
Fabrice, toi, qu'est-ce que tu veux rajouter ?
Je déteste la dystopie, c'est un enfer.
C'est un monde particulier, quoi. Il faut se préparer à aller là-dedans, quoi.
Non, mais je l'ai déjà dit au premier épisode, je suis pas très fan de jeux vidéo. C'est pas, je préfère aller prendre des verres sur des terrasses. Mais en vrai, le style graphique m'intrigue énormément de voir un peu ce que ça donne. Et je me posais la question. En fait, je ne comprenais pas quel était le rôle des extraterrestres par rapport à l'humanité et puis le fait qu'ils soient partis. Si tu peux me réexpliquer, enfin, si tu peux nous réexpliquer cette partie-là.
Ok, en gros. L'humanité s'est fait attaquer par deux puissances gigagalactiques. Donc on a dû fuir et on est allé sur une planète. Mais sauf que les ennemis nous poursuivent toujours. Donc c'est un peu les ennemis et eux, ils veulent nous éradiquer, aussi bien en termes de culture que physiquement. Quoi. Ils veulent la mort de l'humanité. Et donc vraiment, leur rôle, c'est un peu d'être l'ennemi surpuissant qu'il nous faut surpasser. Et ce que je trouve génial avec Xenoblade, c'est qu'il y a toujours ce truc d'espoir, et l'espoir, c'est l'unité. Parce que pour vaincre cette menace, il va falloir s'allier avec les habitants de Myra, la planète, pour parvenir à les surpasser, former des alliances, etc. C'est un thème qu'on retrouve dans tous les Xenoblades, qui sont d'ailleurs tous disponibles sur Switch, je dis ça pour Isnel.
Trop bien.
Et juste, oui.
Vas-y.
Juste pour dire que j'aime beaucoup les jeux vidéo dans leur partie politique, parce que dans leur partie politique, l'un des prismes qu'ils ont qui est politique, c'est aussi de délivrer des messages. Et je crois que c'est important aussi de comprendre le message derrière ce type de jeux vidéo-là.
Merci en tout cas pour ces précisions, Hugo. Pour ceux qui veulent se lancer dans cette folle aventure, nous venons de parler de Xenoblade Chronicles X Definitive Edition. Il se joue sur Nintendo Switch et il est disponible partout. Vous écoutez C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris sur le 93.9 FM à Paris et dans sa région.
C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris.
À présent, partons à la rencontre d'un modèle un peu particulier pour ce qui est de la sculpture. Sophie nous a laissé une chronique et nous présente Dina Verny.
Est-ce que vous connaissez Dina Verny ? C'est un nom discret dans l'histoire de l'art. Et pourtant, sans elle, certaines des plus belles sculptures du XXe siècle n'auraient peut-être jamais vu le jour. Dina Verny, c'est une jeune fille de 15 ans qui rencontre le sculpteur Aristide Maillol, 73 ans à l'époque. Deux mondes, deux générations. Et pourtant, entre eux, une rencontre artistique bouleversante. Elle devient son modèle, sa muse, son souffle de jeunesse. Mais pas question ici de l'imaginer figée, silencieuse et soumise à l'artiste. Non, Dina, c'est tout l'inverse. Elle discute, elle inspire, elle bouscule même parfois. Elle ne se contente pas de poser, elle participe à l'acte de création. Son corps devient sculpture, oui, mais pas elle. Elle, elle reste vivante, présente, force motrice. C'est important de le rappeler parce que le métier de modèle est souvent mal compris, voire dévalorisé. Pourtant, c'est un métier exigeant et très physique. Faut de la patience, de la résistance, une conscience de son corps. Je vous rappelle qu'un modèle en sculpture, enfin, à notre époque, pose pendant 45 minutes sans bouger, puis à 15 minutes de repos, et recommence la même position pendant 45 minutes, sans montrer qu'il fatigue. Il faut aussi une capacité à transmettre l'émotion, par la posture, le geste, le silence. Et Dina Verny, elle l'a incarné à merveille. Elle ne s'est pas arrêtée là, parce qu'après la mort de Maillol, elle est devenue galeriste. Et elle défend les artistes contemporains. Et surtout, elle fonde le musée Maillol à Paris. Elle redonne toute sa place à l'œuvre du sculpteur, mais aussi à son propre rôle. Elle a aussi posé avec d'autres grands artistes comme Matisse. Son corps traverse ainsi l'histoire de la sculpture comme modèle, comme un fil rouge discret mais essentiel. Et si vous passez un jour dans le jardin des Tuileries, levez les yeux, regardez bien les statues de la femme aux formes pleines, puissantes, calmes, ancrées. Parce que ce sont les œuvres de Maillol, mais aussi de Dina Verny, figées dans le bronze éternel. Et pour les curieux, vous pouvez aussi la trouver à Port-Vendres, où il y a une statue d'elle que j'ai eu la chance de voir, ainsi que le musée à Bagnoul-sur-Mer, le musée Maillol, à côté de la frontière espagnole. Une très jolie région aussi. Il y a toute une histoire qui commence entre elle et Maillol, là-bas. Dina Verny nous rappelle que sans modèle, il n'y a pas de sculpture. Et malheureusement, les modèles encore aujourd'hui sont dans la précarité. Et ça, c'est bien dommage. Derrière chaque œuvre, il y a des visages, des corps et surtout des histoires.
Une muse que l'on retrouve dans tout Paris et qui a fondé le musée Maillol de ses propres mains. Merci à Sophie. Passons aux réactions. Est-ce que déjà vous aviez la référence du Jardin des Tuileries ?
Non, pas du tout.
Personne ici ? Bon, bah, ça sera l'occasion d'aller voir et de lever les yeux pour confirmer ce que Sophie a dit. Alors, comme elle le dit dans sa chronique, les modèles ont chacun, chacune une histoire. Vous trouvez qu'elles se retranscrivent bien dans les sculptures, ces histoires que vous voyez ? Hugo, ça t'inspire ?
Je suis pas le plus grand fan de sculptures de la salle. J'avoue que je connaissais pas du tout la
sculpture. Dina Verny ?
Dina Verny, non. Donc, j'avoue que ça m'intéresse. Surtout que les Tuileries, on est d'accord que c'est à côté du Louvre. C'est...
Oui.
Ouais. Donc j'y vais relativement souvent, donc la prochaine fois j'y jetterai un coup d'œil.
Ça sera l'occasion. Alors comme pareil le dit Sophie dans sa chronique, être modèle c'est de la résistance et de l'émotion à la fois. Une tâche difficile selon vous, Diane ?
Moi ça me fait penser, quand elle parlait de ça, quand j'ai mon stage de 3e, je l'avais fait, stage d'observation etc. Moi j'avais fait avec un artiste plasticien, qui était mon prof d'art plastique dans une activité extrascolaire. Et du coup, j'avais fait une semaine à faire plein de choses, voir ce qu'ils faisaient, les expositions qu'ils installaient, etc. Et notamment, les cours qu'ils donnaient pour des adultes. Et dans le même truc associatif, etc., il y avait des cours de nu pour les adultes. Et j'avais discuté avec la personne qui donnait les cours et puis la personne qui posait. Il n'était pas nu devant moi, sachez-le, rassurez-vous. Mais du coup, c'est très intéressant parce que souvent aussi, les personnes qui posent, en tout cas aujourd'hui, c'est des personnes qui sont étudiants, étudiantes, qui font ça pour gagner un peu de thunes, etc. Et du coup, c'est en plus que ce soit un travail physique, parce qu'il faut rester longtemps sur la même pose, bah, c'est un travail qui est assez précaire, etc. Donc, ouais, je trouve ça assez... intéressant et en même temps, pour la nécessité des cours de nuit, il faut aussi des personnes qui ont des morphologies différentes, etc. Donc, je pense que ça va être assez difficile de trouver des personnes qui sont aussi OK pour poser pendant un long temps pour des cours. Ouais.
La question des modèles, Isnel, t'en penses quoi, toi ?
C'est une question à laquelle j'avais jamais pensé. Et c'est vrai que ça a l'air super difficile comme métier de rester comme ça, sans bouger, en plus devant. beaucoup de gens. Enfin, c'est vrai que moi qui suis très pudique, genre, j'ai énormément de respect. Et c'est vrai que c'est pas le genre de choses dont on parle beaucoup quand on pense aux sculptures ou autres. On admire souvent l'art terminé, mais on pense pas à ce que ça a dû demander comme travail. Et je savais pas que c'était des étudiants qui faisaient ce genre de choses. J'imaginais plutôt des artistes affirmés qui faisaient ça en parallèle. Donc c'est vrai que... Oui, c'est super intéressant en tout cas.
Fabrice, on en pense quoi de ce duo qui mêle deux générations? 73 et 15 ans, c'est un écart démesuré, non? On y croit à la création intergénérationnelle?
Oui, complètement. Complètement, j'y crois parce que justement, les uns vont influencer les autres parce qu'il y a, en fait la transmission, il y a l'histoire et puis de l'autre côté, il y a la jeunesse, il y a la créativité, il y a l'envie, il y a les nouvelles idées, il y a l'esprit enfantin, et ça, ouais, complètement. Et ça donne envie et puis je crois que ça se transmet aussi à travers la sculpture, ouais.
Jeanne, sur cette question. Rien.
J'avoue, comme disait Snell, c'est tellement un sujet auquel je n'ai jamais pensé que j'ai pas grand-chose à en dire tout de suite, mais tout ce que j'écoute tout ce que vous dites.
Hugo, je te voyais réagir.
Fabrice, il parlait de l'art intergénérationnel, on est en plein dedans là, hein, avec lui.
Merci beaucoup.
Ce que je voulais dire, c'est que en fait, depuis la création de cette émission, à titre personnel, vraiment, je redécouvre la sculpture à travers les différentes.
C'est passionnant. Hein.
C'est particulièrement passionnant parce que c'est quelque chose. Je pense qu'on n'est pas éduqué à ça. Non, on n'est pas éduqué à ça. Et le fait juste de se dire, ok, il y a des choses qu'on peut aller voir. En plus, quand on a moins de 26 ans, c'est gratuit. Donc, faut pas hésiter. Dans les espaces publics, ils y sont et c'est gratuit. Et ça arrive bientôt dans les gares du Grand Paris Express. Il y a moyen quand même de s'éduquer et de se dire, ok, je vais avoir un autre regard dessus.
Dina Vernis, modèle phare de l'artiste Mayol, je vous invite à aller visiter le musée Mayol dans Paris 7 pour découvrir plus amplement cette histoire. Vous écoutez C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle de Radio Campus Paris sur le 93.9 FM à Paris et dans sa région.
Sculpture,
littérature,
musique. C'est dans l'art sur Radio Campus Paris.
Nous sommes déjà à la dernière partie de notre émission et nous terminons avec les arts de la scène. Isnel, tu nous fais un focus sur la réalité des metteurs et metteuses en scène dans le théâtre.
Alors, quand on pense au théâtre, on imagine les projecteurs, les planches, les saluts, tous les applaudissements, bref, la magie du spectacle vivant. Mais derrière cette image, il y a une autre réalité, beaucoup moins dorée, celle des metteurs et metteuses en scène, souvent seuls. Seuls pour créer, seuls pour produire, seuls pour survivre parfois. Une solitude qui n'est pas seulement économique, mais aussi sociale, politique et intime. Aujourd'hui, on lève un peu le rideau.
Alors, d'où vient cette solitude des metteurs et metteuses en scène ?
Alors bon, d'abord, parlons franchement, cette solitude vient entre autres du portefeuille. Aujourd'hui en France, une metteur ou un metteur en scène sur deux gagne moins de 6000 euros par an issus de son art. Autant dire qu'à ce tarif-là, ils sont surtout riches en passion et en découvert bancaire. Pour survivre, ils doivent tout faire eux-mêmes, écrire, chercher des subventions, monter des dossiers, convaincre des théâtres et parfois même construire eux-mêmes les décors avec trois bouts de ficelle et beaucoup d'espoir. La lourdeur administrative n'arrange rien. Comme le dit Cyril Legris, président du syndicat national des metteurs en scène, la fatigue, l'épuisement et l'abandon deviennent presque des étapes obligées. Bref, charmant programme, non ? Et avec la baisse continue des subventions publiques, plus de 200 millions d'euros coupés en 2024, monter un spectacle aujourd'hui ressemble à construire une cathédrale. Surtout qu'il faudrait aussi inventer les plans, sculpter les pierres et surtout, enfin, prier très fort pour qu'il reste un peu de ciment, quoi.
Mais alors, cette solitude, est-ce qu'elle touche tout le monde de la même manière ?
Eh bien non, la solitude n'est pas la même pour tout le monde parce que devinez quoi, dans les coulisses aussi, les discriminations existent. Par exemple, être une femme metteur en scène en 2025, c'est encore devoir ramer plus fort que les autres. Sur les grandes scènes françaises, seulement 30% des spectacles sont mis en scène par des femmes. Autant dire que ce n'est pas vraiment le raz-de-marée féministe. Et pour les artistes racisés, ce n'est encore guère mieux. Rebecca Chaillon, après avoir présenté Carte Noire, nommée Désir au Festival d'Avignon en 2023, a été victime d'insultes racistes dans les rues, sur les réseaux et dans un grand silence embarrassant des institutions. Et Mohamed Ed Kalib, lui, continue d'apporter à la scène des récits populaires, des récits de ceux qu'on entend rarement, ce qui, dans un milieu homogène que le théâtre français, revient parfois à jouer un peu David contre Goliath sans fronde. Et quant aux artistes en situation de handicap, ils restent largement invisibles. Non seulement les lieux ne sont déjà pas toujours accessibles, mais sur scène, leur visibilité est aussi rare qu'un entracte dans une pièce de Beckett. Heureusement, des initiatives émergent, comme le festival Imago. C'est le premier grand festival dédié aux artistes en situation de handicap. Mais bon, on est encore loin d'une révolution.
Est-ce qu'il y a quand même des signes d'espoir ou des initiatives positives?
Oui, heureusement, le prix T13, par exemple, permet à des jeunes metteurs et metteuses en scène de trouver un véritable tremplin pour lancer leur création. Et puis depuis 2024, le programme Égalité sur scène soutient activement la diversité des voix sur les plateaux. Côté spectacle, un incontournable, La vie secrète des vieux de Mohamed El Khalib, un bijou de tendresse et d'humour porté par des vrais témoignages de seniors. Il est actuellement en tournée en France du 20 au 25 mai au Théâtre de la Ville de Paris, puis à Lyon, à la Maison de la Danse en juin et au Festival d'Avignon qui revient du 7 au 15 juillet 2025. Oui, derrière les projecteurs, il y a de la fatigue, du doute, mais il y a aussi une énergie immense pour que la scène reste ce qu'elle doit être, un miroir vivant de toutes nos vies.
Une situation alarmante, mais pourvue d'acteurs qui continuent de se battre tant que l'art vit. Merci Isnel. Allez, passons aux réactions. C'est une réalité que vous soupçonniez, Diane ?
Ouais, je le soupçonnais, on va dire, de connaissances. Moi, je fais du théâtre en dehors de ma vie professionnelle, bref. Et je fais du théâtre juste à côté de chez moi. Et les profs qui nous donnent cours, c'est des intermittents du spectacle. Ils donnent des cours... je pense, compléter leur intermittence, etc. Mais ils sont acteurs, comédiens. Le couple, la fille, elle est metteuse en scène, etc. En plus, ils ont des enfants, etc. Donc, ça fait longtemps, eux, qui sont intermittents du spectacle. Ils ont fait une école de théâtre. Mais j'ai totalement conscience que c'est un métier extrêmement dur. Et en plus, je crois que dans les heures d'intermittence, on ne peut pas compter le temps de réflexion, le temps d'écriture, etc. C'est juste le temps où tu joues... sur une scène, etc., ou quand tu joues sur un plateau de cinéma, donc c'est très compliqué, ouais.
Fabrice, un mot sur la question ?
Oui, complètement sur le fait que, en fait, on a une exception culturelle française et qu'il va falloir la défendre bec et ongles dans un contexte budgétaire compliqué. Et surtout qu'en fait, tout métier artistique, ça demande beaucoup de temps d'écriture, de réflexion, justement, et puis du jeu et du budget. Et qu'on espère qu'on va pouvoir continuer à faire ça et justement continuer à justement faire émerger des artistes qui veulent mettre en scène. Des choses plurielles, des choses diverses, des choses éclectiques dont on a besoin parce que l'époque elle est compliquée et que je crois qu'on a besoin de s'exprimer.
C'est marrant, t'as amorcé la question que je voulais donner. Le théâtre, est-ce que c'est un art de toutes les représentations, Hugo ? Qu'est-ce que t'en penses ?
Je pense pas.
Ah ouais ?
Non.
Vas-y, raconte.
Parce que ça reste un truc assez parisien. Genre, je dis pas qu'il y en a pas dans le reste de la France. Simplement, les grands théâtres, ils sont où ? Ils sont à Paris. Et même d'une manière générale, alors c'est vrai qu'il y a, comme tu disais, Isnel, il y a de l'ouverture, il y a tout ça. Ça reste un truc de bourgeois, hein, pour les bourgeois. Donc non, c'est pas un art populaire, le théâtre. Ça l'a peut-être été il y a longtemps, mais aujourd'hui, c'est un art de privilégié. Mmh. C'est un art de privilégié. Et il faut. Justement, comme tu disais Fabrice, on a une exception culturelle française, mais cette exception culturelle, elle n'est pas parfaite. Il va falloir se battre pour la culture, mais aussi pour ouvrir la culture.
Jeanne, une réaction ?
Ouais, non, je repensais à ce que disait Isnel sur le fait que le métier de metteur en scène était empreint d'une grande solitude. Mais j'allais dire que ça dépend vraiment des cas, enfin, c'est facile à dire, mais ça peut aussi, le monde du spectacle, c'est aussi souvent des grandes aventures collectives et... surtout dans les petites compagnies. Enfin, moi, je travaille pour une compagnie de comédie musicale et tous les projets qu'on porte, on arrive à le faire justement parce qu'on travaille ensemble et que chaque poste fait un peu tout et qu'au final, c'est très peu cloisonné et que c'est comme ça une espèce de grande dynamique de groupe. Et je pense que c'est aussi cette énergie-là qui permet de porter des projets et de les mener à bout et que c'est pas seulement du travail collectif du metteur en scène dans son coin qui écrit puis qui dicte au plateau ce qu'il faut faire et qui rentre chez lui, quoi.
Merci pour vos réactions. Pour rappel, Isnel a mentionné la pièce La vie secrète des vieux de Mohamed El Khatib. Allez la voir sans plus attendre au Théâtre de la Ville à Paris du 20 au 25 mai. Ne ratez pas le coche. C'est dans l'art, c'est déjà fini pour ce soir et c'était un plaisir d'être avec vous. Merci à vous, Hugo, Isnel, Jeanne, Fabrice, Diane et Sophie pour vos chroniques et vos réactions.
Merci Léa.
Merci à Eléa à la technique. Le programme de la soirée se poursuit sur Radio Campus Paris. En attendant, retrouvez-nous sur radiocampusparis.org pour nous réécouter ou sur Instagram, c'est dans l'art RCP, tout attaché. Là-bas, on y met toutes les références qu'on a citées, allez voir. Rendez-vous à la prochaine émission dans 3 semaines pour toujours plus d'art. Portez-vous bien d'ici là et vive l'art sous toutes ses formes.
Retrouvez C'est dans l'art, le magazine d'actualité culturelle sur radiocampusparis.org et sur toutes les plateformes de musique à la demande.